Pause Planète avec Hélène Lequitte.
Tard 19 maintenant, la ville de Vancouver qui s'équipe depuis un moment de véhicules électriques et d'après le gouvernement canadien, les émissions de la Colombie-Britannique ont augmenté de 20 % depuis 1990. Les véhicules électriques comme les Tesla sont populaires, on le sait, on en voit partout d'ailleurs dans nos rues. Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode ça ou bien est-ce que c'est une vraie alternative valable pour l'environnement? On en parle ce matin avec Hélène Lequitte. Bonjour Hélène!
Bonjour Marie.
Donc, bon, ces véhicules-là, on les voit, ont des formes futuristes. Est-ce qu'ils sont vraiment les véhicules du futur, du moins pour l'environnement? C'est une question compliquée, ça, Hélène, je pense.
Ah oui, c'est pas une question, c'est blanc ou noir, la réponse.
Non, vraiment pas.
Et justement, plus j'ai cherché, plus je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait nuancer cette réalité-là. Alors, c'est vrai qu'on va partir d'un premier constat, et c'est vrai, comme vous l'avez dit, Marie, il y a un vrai phénomène d'engouement auprès de la population, un phénomène de mode, hein, notamment avec les Tesla. Mm-hmm. Si vous prenez en chiffres, par exemple, la ville de Victoria, selon les informations de l'Association des véhicules électriques de Victoria, on pouvait compter sur la route à partir du 31 mars 2020, environ 29 385 véhicules, contre, à partir du 1er avril 2019, 13 727 véhicules autorisés. Mmh. Donc déjà, c'est le double.
Oui.
Et toujours, selon ces mêmes sources, c'est vrai que c'est une tendance générale que le nombre de véhicules électriques dans la province a vraiment plus que doublé entre 2019 et 2020.
Ouais, bon, ça marche beaucoup. Qu'est-ce qui suscite l'incitation à l'achat de ce genre de véhicules-là, Hélène?
Bah déjà, il y a un contexte politique vraiment favorable en Colombie-Britannique. Hein, c'est la Colombie-Britannique, c'est un vrai leader en matière de conscience politique et sociale vers la transition énergétique. D'ailleurs, il y a quand même des grandes figures de proue comme Andrew John Weaver, qui est le climatologue et chef du Parti Vert hein, de 2015 mm-hmm. à 2020. C'est un proche du Premier ministre John Horgan. Ils se connaissent très très bien. Donc, c'est vrai que c'est des questions de vision puis aussi de volonté politique pour bâtir l'avenir d'une province. Hein. On le voit ne serait-ce que concernant la mise en œuvre du plan Clean BC. Mm-hmm. Dans le cadre des Tesla, justement, il y a des mesures qui sont prises, qui encouragent, mais aussi qui octroient justement un rabais de 8 000 $ pour toute personne qui achèterait.
Ça compte. Ben oui.
Oui, ça compte énormément, notamment quand on veut se porter acquéreur d'un véhicule électrique.
Ouais.
Et justement, Marie, j'ai rencontré quelqu'un, une personne qui s'appelle Claudia Fagioni. Elle est enseignante à Vancouver, et elle est propriétaire de ce type de véhicule. Alors, le prix d'achat, elle a acheté 52 000 $ taxes incluses, alors que le prix initial était de 60 000. Elle va nous partager tout de suite son point de vue de consommatrice.
Avec la voiture qu'on avait avant, on dépensait environ 300 $ d'essence par mois. Et là, on dépense une soixantaine de dollars en électricité par mois. Et puis, évidemment, qu'on avait aussi envie de faire quelque chose pour l'écologie. Et c'est vrai qu'on le fait de ne plus avoir besoin d'utiliser des carburants fossiles, ça a été aussi un argument important pour nous.
Voilà, donc ça a été un argument. Faut comprendre qu'un modèle moyen comme elle a acheté là, qui vaut 60 000, parce qu'il y a vraiment des gammes complètement différentes, l'espérance de vie de la batterie est de 150 000 km.
Oui.
Parce que, évidemment, le prix d'achat, ça correspond à l'espérance de vie des batteries. Donc, vous avez des modèles beaucoup plus chers, hein, des modèles de luxe qui peuvent aller jusqu'à 150 000 $, où justement, là, l'espérance de vie de la batterie peut monter jusqu'à 250 000 km, voire peut-être même plus encore.
Uh-huh.
Alors, c'est vrai qu'au niveau des avantages, les coûts d'entretien, c'est minime. Il y a aussi des mises à jour régulières à faire, car elles fonctionnent à partir d'une application téléchargeable sur votre téléphone. Si vous voulez, vous pouvez tout faire à partir du téléphone. Voilà, donc c'est vraiment un gadget de luxe et c'est pas quand même pour toutes les bourses parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si vous achetez un véhicule essence déjà usagé mais de bonne qualité comme une Toyota ou Corolla,
mm-hmm.
Le prix d'achat, ça reste quand même 5 000 $. Donc, c'est quand même, même s'il y a des incitatifs à l'achat, des initiatives du gouvernement, ça reste quand même, un objet de luxe, une Tesla. Et puis aussi, il y a l'aspect logistique, c'est-à-dire qu'à Vancouver, vous avez des immeubles, bon, c'est le cas de Mademoiselle Fagioni, ils ont des prises au sein de leurs immeubles, mais tous les immeubles à Vancouver ne permettent pas justement... Pas du tout.
Ouais.
Voilà.
Ouais. On a entendu, Hélène, dans ce discours de cette consommatrice-là, que l'environnement avait été aussi un point non négligeable de la décision d'achat de cette voiture-là. La grande question, est-ce que ça aide vraiment?
Bah, comme je l'ai déjà dit, c'est vrai que la Colombie-Britannique, elle est progressiste hein, par rapport à d'autres provinces de l'Ouest comme l'Alberta, où dernièrement, voilà, Jason Kenney, il a fait un petit peu les manchettes où il parle de son amour inconditionnel pour les pick-up albertains.
Oui, oui.
c'est très différent en termes de vision et de volonté politique, hein, vous voyez.
Oui.
Mais il faut savoir que la ville de Vancouver, avant de lancer les budgets d'équipement de vie des véhicules électriques, a fait faire une étude par des étudiants de UBC. C'est une étude qui date de 2018. Ces étudiants étaient étudiants justement au département de durabilité de l'université. Ça s'intitule « Analyse du cycle de vie des véhicules électriques, quantifier l'impact ». Et voilà, les termes « cycle de vie » ici, c'est vraiment important. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris deux véhicules, un essence, l'autre électrique. Voilà. Donc, en se concentrant sur deux points essentiels, un, l'impact de construction versus l'impact d'utilisation. Et le résultat, d'après vous, Marie, ça donnait quoi? C'est le véhicule électrique ou le véhicule essence qui était, on va dire, plus économe sur les gaz à effet de serre?
J'aurais une tendance à dire essence, mais je me mets peut-être le pied dans le piège.
Alors, en fait, voilà, la réponse, elle est encore nuancée parce que les véhicules électriques, c'est vrai qu'ils n'ont pas de pot d'échappement, donc en termes d'utilisation, d'impact, il n'y a pas de CO2 qui se projette dans l'atmosphère.
Ouais.
Par contre, l'impact de construction des batteries électriques, des véhicules électriques, ça, c'est un vrai défi parce que justement, il y a un composant pour fabriquer ces fameuses batteries, c'est le lithium.
Ouais.
Et justement, j'ai rencontré Grégory Paradis, professeur à UBC qu'on connaît déjà bien, à la faculté de foresterie, qui a, lui, une expertise en comptabilisation des gaz à effet de serre et en analyse de cycle de vie avec un avis sur cette question.
Il y a une contrepartie si on prend en considération la dimension temps. Donc, les batteries spécifiquement des véhicules électriques sont énormément énergivores à créer. Donc, il y a beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre lors de la fabrication d'un véhicule électrique que lors de la fabrication d'un véhicule conventionnel. Au départ, le jour où on acquiert notre véhicule au kilomètre zéro, on est déjà dans une situation de désavantage vis-à-vis des gaz à effet de serre avec notre véhicule électrique. On a une dette à payer. Cependant, en opérant notre véhicule sur plusieurs milliers de kilomètres, on finit par se rattraper parce que les émissions en opérant un véhicule électrique sont moindres que les émissions en opérant un véhicule conventionnel.
Voilà, donc c'est ça la contrepartie. Hein.
Ben oui.
Il y a toujours une contrepartie à quelque chose.
Oui.
Donc en fait, voilà, les véhicules électriques, c'est valable sur la durée. C'est surtout ça. Mais après, bon, il y a la contrepartie, mais il y a aussi des enjeux. Et pour les enjeux, je me suis tournée vers le professeur David Wilkinson, qui est un chercheur au département de génie chimique et biologique à UBC, pour nous parler un petit peu plus de ce rapport de 2018. Alors lui, il a soulevé trois points cruciaux. Le premier, on va en parler maintenant, c'est d'où vient l'électricité.
Bah oui.
Parce que pour le moment, bah oui, le nombre de voitures électriques en Colombie-Britannique permet de répondre à la demande. Mais si demain le chiffre venait à augmenter, si la plupart des Vancouverites désiraient se porter acquéreurs d'un véhicule électrique, est-ce qu'on pourrait répondre à cette demande? On va écouter David Wilkinson à ce sujet.
But we're going to have to increase the amount of renewable energy in BC to match the requirements for electric vehicles, and that's going to take quite a long time to do.
Alors voilà, nous devons augmenter la quantité d'énergie renouvelable en Colombie-Britannique pour répondre aux besoins des prochains véhicules électriques. Et cela va prendre beaucoup de temps. Mais le professeur Wilkinson a aussi expliqué qu'ils avaient conscience de ce problème-là, qu'ils étaient déjà à pied d'œuvre sur cette problématique. D'autres ressources renouvelables, il a mentionné l'éolien et le solaire. Après, on verra, c'est encore prématuré pour parler encore de ces ressources-là. Mais l'autre point important sur lequel il a vraiment insisté, c'est l'extraction de lithium, qui est un composant, je le disais, important des batteries. On le réécoute à ce sujet.
That has an issue with the local ecosystems, food production and communities, because so much water is required in order to extract lithium salt.
Voilà, ça pose un problème pour l'écosystème local, la production alimentaire et les communautés, car il faut beaucoup, beaucoup d'eau pour l'extraire. Et justement, un peu comme en Alberta, on utilise aussi des méthodes de fracking, il m'avait expliqué.
Oui.
Voilà, donc, et le dernier point important, c'est le recyclage des batteries usagées.
Oui.
C'est un point sur lequel il va vraiment falloir travailler. Et d'ailleurs, Grégory Paradis avait mis une idée vraiment assez originale. C'était de mettre ces batteries dans une maison pour emmagasiner, voire stocker l'énergie des panneaux solaires.
Oui, ben c'est ça. Il y a encore énormément de choses à faire là-dedans, dans ce monde-là, à améliorer dans ce monde-là. Là, finalement, pourquoi Vancouver investit dans cette technologie-là, Hélène?
Bonne question. Ben, moi, je pense que c'est déjà, il faut commencer quelque part.
Oui.
Et
oui.
C'est un bon point de départ vers la transition énergétique. Alors oui, ce n'est pas parfait, on l'a vu. Puis il faut beaucoup nuancer justement ces nouvelles technologies. Il y a les avantages, la contrepartie. Mais alors là, en termes d'enjeux aussi, c'est que même si la Colombie-Britannique est vraiment cap vers la transition énergétique, il y a un enjeu majeur qu'on ne voit peut-être pas encore arriver, c'est le contrôle des chaînes de production de lithium. Est-ce qu'on va avoir des concessions de lithium au même titre qu'on a des concessions de pétrole?
Ah, oui.
Il y a un aspect économique, ça va être comment les chaînes d'approvisionnement seront contrôlées pour les batteries de véhicules électriques. Et Marie, ça va avoir une influence considérable sur les pays.
Absolument. Non, et ça, vous faites bien de le signaler, là. Et bon, la solution à la voiture, Hélène, c'est peut-être de ne pas avoir de voiture au final.
Aussi, c'est une solution.
Oui, je pense que oui. Hélène Lequitte, merci beaucoup. On se retrouve bientôt, Hélène. Merci.
Merci, Marie.
Bonne journée.
Vous écoutez Far West Terrasse, 96,9 FM.